de l'Apocalypse, avec tous ces symboles, avec aussi ces choses littérales, hein, ces passages littéraux. On a vu donc l'ouverture des sept sceaux, on a vu le retentissement des sept trompettes, et là on en arrive au chapitre 12 à 14, qui sont en fait un récapitulatif de toute l'ère messianique, depuis la naissance de Jésus jusqu'à son retour à la fin des temps. Et ces textes sont là pour nous faire prendre conscience d'un combat spirituel. D'un combat spirituel. Je dirais même plus un combat spirituel et cosmique qui se passe dans le ciel. Entre qui ? Eh bien, entre le diable, l'ennemi juré de Dieu, et Dieu. Un combat spirituel et cosmique dans le ciel avec ses conséquences sur la terre ici, qui nous aide aussi à mieux comprendre ce qui se passe sur la terre. Et on a beau être une petite, on a des petites assemblées dans le Lot, hein, et parfois on se dit, mais est-ce qu'on peut se croire insignifiant ? Et pourtant, croyons bien que la vie de nos petites églises ici, elles ont un impact sur le monde, de par notre vie, de par nos prières, par notre témoignage que nous avons en Jésus. Et ces textes sont là pour nous encourager, pour nous aider à lutter contre l'empire du mal dans lequel le monde se trouve. Et à nous rappeler aussi que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel et que Jésus a remporté ce combat. Il a remporté la victoire pour nous. Donc on va poursuivre la lecture. On est conscient qu'effectivement nous sommes dans un combat spirituel. On va reprendre l'Apocalypse à partir du chapitre 12. Et aujourd'hui, on verra donc le chapitre 12 et 13. Je le lirai en deux fois. Je lirai chaque chapitre séparément. Donc premier Apocalypse 12, verset 1. Et avant cela, je vais prier. Seigneur, je te remercie de nous avoir laissé ces textes qui nous aident à élargir notre vision, à mieux comprendre, Seigneur, ce que nous vivons, à comprendre, Seigneur, ce combat spirituel. Et nous te demandons de nous ouvrir les yeux de notre cœur, de notre intelligence, pour, Seigneur, savoir où nous en sommes, Seigneur, et nous maintenir dans ce combat, Seigneur, le bon combat pour toi, Seigneur. Et ce combat, il est dans la prière, Seigneur, en toi. Merci d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence sur ta parole, en Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel et voici. Un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Verset 12 « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. » Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps et un temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. Un passage donc qui parle de ce combat. Et je vais le développer, qui nous montre que l'Église peut garder les commandements de Dieu dans ce combat. L'Église peut garder les commandements de Dieu parce qu'elle est dans un combat spirituel qui est déjà gagné. Ce combat est déjà gagné. Alors, c'est ce que je vous propose de voir. Premièrement, pourquoi ce combat est-il déjà gagné? Eh bien, premièrement, nous verrons parce que le combat a été gagné par Christ. Deuxièmement, dans ce combat, eh bien, nous verrons que Dieu protège et nourrit son Église. Et troisièmement, nous verrons que ce combat est gagné parce que Dieu nous a donné les moyens de reconnaître les ruses de son ennemi, le diable. Il nous a donné les moyens. On verra ça à la fin, troisième partie. Premièrement donc, eh bien, la victoire est acquise pour qui? Pour ceux qui gardent les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a déjà gagné le combat spirituel. Alors, voyons de plus près donc ce chapitre. Comment est-ce qu'il commence? Il commence avec un premier signe dans le ciel. Je cite le verset 1. Ce signe donc, c'est verset 1. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Alors pour l'apôtre Jean, eh bien cette femme en fait, elle représente l'alliance éternelle de Dieu. Elle évoque beaucoup d'autres femmes, certainement. Ce qu'il faut voir, c'est que cette femme, c'est l'alliance éternelle de Dieu avec les hommes. Cette femme, en fait, c'est le peuple entier de Dieu, issu de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Cette femme, eh bien, cette alliance, elle part de Ève, la première femme, à qui Dieu avait déjà promis que sa descendance écraserait la tête du serpent, en Genèse 3:15. Donc cette femme, elle part de Ève en passant par Israël, le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance. Le soleil, la lune et les 12 étoiles font écho au rêve de Joseph, en Genèse chapitre 37, verset 9, si vous voulez la référence, où il est question aussi du soleil, de la lune et des 11 étoiles, lui étant la 12e. Le chiffre 12 représente les 12 étoiles représentent les 12 patriarches et les 12 tribus d'Israël. On peut le voir comme ça. Donc le peuple de Dieu sur l'ancienne alliance, on le voit comme ça. Et c'est d'Israël qu'est issu le Messie, la descendance promise, d'où sortira le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire nous, l'Église. Et les 12 étoiles font bien sûr penser aussi aux 12 apôtres. Cette femme, elle est enceinte. Ève, ça a été la première femme à connaître les douleurs de l'enfantement. Israël est aussi comparé à une mère dans les douleurs de l'enfantement en Ésaïe 26, 17. Vous pouvez noter la référence. Une autre femme qui a connu les douleurs de l'enfantement, c'est bien sûr la Vierge Marie. La Vierge Marie a été enceinte du Messie. Alors, la Vierge Marie, elle n'est pas la femme décrite ici, mais elle fait partie de la femme. Elle fait partie de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et donc, on l'a compris, cette femme, eh bien, elle représente à la fois Ève, Israël, Marie et l'Église. L'alliance de Dieu avec son peuple. Et les douleurs de l'enfantement font penser à une délivrance prochaine. Les mamans qui sont ici savent de quoi il est question. Voilà pour le premier signe. Le deuxième signe, eh bien, le verset 3 indique un autre signe apparu dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes avec des diadèmes et 10 cornes. Il s'agit du diable. Le diable qui se tient prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance parce qu'il voyait en lui, il voit toujours, une menace pour lui. Il est question du diable dans ce passage. Vous l'avez compris. Mais ce texte est là pour mieux ne pas le craindre, mais nous aider à mieux le combattre. La femme enfante un fils. Et ce fils, eh bien, il s'agit bien sûr de la naissance de Jésus-Christ, cette naissance dont il est question. Jésus, le Messie issu d'Israël, le Messie qui pètera les nations avec une verge de fer. Une verge de fer, les nations qui n'auront pas cru pendant le temps de l'Église, qui pètera les nations avec une verge de fer. Et on peut voir dans le verset 5 un condensé de la vie de Jésus, de sa naissance à son ascension, quand il a été enlevé au ciel, vers le trône de Dieu. Et vous vous rappelez l'histoire, le roi Hérode a voulu tuer Jésus dès sa naissance. Mais l'enfant a été mis à l'abri. Marie et Joseph sont partis en Égypte. C'était pas son heure à Jésus. Oui, Jésus est mort après à la croix, bien sûr. Mais même si Jésus est mort sur la croix, le dragon n'a pas pu dévorer Jésus. Parce que Jésus est ressuscité. Et ainsi, par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous a obtenu la victoire sur nos trois ennemis. Nous avons trois ennemis. Nos trois ennemis, c'est notre péché déjà dans notre cœur. L'autre, le second ennemi, c'est la mort. Et le troisième ennemi, c'est le diable. Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu nos trois ennemis, le diable, la mort et le péché. C'est pour cela que, eh bien, le dragon n'a pas pu dévorer Jésus, et nous non plus, l'Église de Jésus-Christ, nous ne pourrons pas être dévorés par le dragon, même dans la persécution, même dans la mort, parce que Dieu est fidèle et que Jésus n'a pas été dévoré. Et il veillera sur son Église jusqu'au bout. De même que Christ a été mis à l'abri pour échapper au roi Hérode, eh bien l'Église aussi sera mise à l'abri à certaines périodes de son histoire. Dans le désert, pour y être nourrie par Dieu. Mon deuxième point, la victoire est acquise pour ceux qui gardent les commandements de Dieu, parce que Dieu protège et nourrit son Église. Parce que Dieu protège et nourrit son Église. Le verset 6 nous dit, « Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Cette femme, donc, elle est mise à l'abri pendant 1260 jours, soit 42 mois. 42 mois, il en est question au chapitre 13, verset 5, le chapitre 13 qu'on va voir tout à l'heure. C'est 42 mois qui sont en fait la période du règne de l'Antéchrist sur terre. 42 mois, 1260 jours. Cette femme, elle est mise à l'abri pendant... L'Église est mise à l'abri pendant 1260 jours. Au désert, dans un lieu, je trouve ça magnifique, un lieu préparé par Dieu. Et cette fuite de la femme au désert, eh bien, voyons là aussi, elle s'applique à l'Église depuis ses débuts, depuis ses commencements. L'Église a connu, connaît en ce moment et connaîtra encore des périodes de persécution. L'Église est persécutée, hein, si vous lisez les dossiers de porte ouverte, hein, l'index de persécution est sorti d'ailleurs. L'Église, dans certains pays, est persécutée. Il y a eu des persécutions, il y en a et il y en aura encore. Et puis on pense aussi, plus proche de nous géographiquement, notre histoire de France. L'Église a été persécutée, les premiers chrétiens ont été persécutés. Les Huguenots en France, ils ont été persécutés. Ils se sont expatriés en Afrique du Sud, aux États-Unis. Il y a eu un moment de persécution très fort en France. Et si vous avez visité le musée du désert, l'histoire des assemblées, on les appelait les assemblées du désert. Ces chrétiens se rassemblaient dans le désert ou s'abritaient dans les rochers pour célébrer leur culte loin de ce qu'il est du roi et des dragons. Des dragonnades. Vous savez, c'était l'époque des dragonnades. Le Seigneur a mis à l'abri son Église pendant les persécutions. Comment vivez-vous si vous en avez vos traversées du désert? Est-ce que vous vivez des traversées du désert? Je crois qu'on en vit tous, hein. Et comment est-ce qu'on les vit, ces traversées du désert? On se dit bientôt le bout du tunnel. Oui, bien sûr, on aspire au bout du tunnel, mais ici, voilà, qui a mis à l'abri l'Église? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui a mis à l'abri l'Église dans un lieu qu'il avait préparé lui-même. Et si nous voyons effectivement nos traversées du désert comme voulues par Dieu, qui a un but pour nous, un désert qui a été préparé par Dieu, un lieu pour nous mettre à l'abri. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On s'immerge dans la parole de Dieu d'autant plus, hein. Eh bien, voyons nos traversées du désert comme des moments où le Seigneur nous fortifie, où le Seigneur nous prépare pour des épreuves ultérieures à venir. Voyons-les comme ça va nous aider à les traverser plus facilement. Et puis donc là, il est question ensuite d'une guerre dans le ciel entre l'archange Michel, on revient à notre texte, hein, il est question d'une guerre dans le ciel entre l'archange Michel et ses anges, et le dragon et ses anges, ses démons, verset 7. Une guerre que le diable va perdre et qui va le précipiter, lui et ses anges, sur la terre. Alors, il est question d'un combat donc entre le chef des anges, l'archange Michel, et ses anges, et contre le diable et ses anges. Mais le verset 11 précise que le véritable vainqueur, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour nous donner la victoire, l'agneau immolé. C'est lui le véritable vainqueur. Et puis, le verset 9, eh bien, présentation de l'ennemi juré de Dieu, le diable, qui est présenté de 4 qualificatifs. Il est dit de lui qu'il est le grand dragon, qu'il est le serpent ancien, appelé le diable et Satan. 4 qualificatifs. Le serpent ancien, bien sûr, il séduisit Ève au commencement du monde. Le diable, le mot diable signifie calomniateur, qui calomnie. Ça signifie accusateur, médisant. Satan, un autre qualificatif, veut dire adversaire. Alors, le diable ne peut plus poursuivre son activité au ciel, nous est-il dit. Quelle était son activité favorite au ciel ? Celle d'accuser les frères et sœurs. Celle d'accuser les frères devant Dieu jour et nuit. Et depuis quand le diable ne put-il plus poursuivre son activité au ciel ? Eh bien, depuis que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Pourquoi ? Parce que nous tous qui croyons en lui, nous sommes acquittés. Nous étions coupables, mais Jésus nous a déclarés non coupables quand nous avons mis notre confiance en lui. Jésus nous a acquittés de nos fautes. La condamnation de nos fautes, et nous sommes justifiés par son sang. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris sur lui notre condamnation. Lui qui n'était pas coupable, il a pris sur lui notre condamnation en mourant sur la croix. Et je crois que le diable, donc l'accusateur des frères, a été précipité à ce moment-là, lorsque Jésus a eu la victoire par sa mort et sa résurrection. Et c'est un événement glorieux qui provoque une louange au ciel, car Satan n'y a plus droit d'accès. D'où cette proclamation au ciel au verset 10 que je relis. Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alors, cette proclamation, elle a lieu au ciel. Cette victoire, elle est déjà au ciel. Mais elle n'est pas encore établie ici sur la terre. Mais, cette victoire, elle est quand même assurée pour les sauver. Pour nous qui sommes encore sur la terre, l'Église. C'est une explosion de louanges au ciel, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la terre. Malheur à la terre et à la mer, verset 12. D'autant plus que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, eh bien, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Pouvant plus poursuivre son activité au ciel, il va persécuter l'Église. Il poursuit la femme. Ici, il s'agit de l'Église, au désert. Et il veut l'engloutir par un fleuve que la terre finit par engloutir. Dieu a mis à l'abri son église, met à l'abri son église. Un fleuve, alors, c'est une image. On peut y voir un fleuve d'enseignements mensongers qui ont visé à séduire l'église. On peut le voir comme ça. Contre lequel Dieu a protégé son église et qu'il met à l'abri. Oui, l'église, effectivement, il y a d'autres enseignements, il y a des sectes, mais Dieu protège son église. Et nous avons ici la vérité, la parole de Dieu. Alors, eh bien, le dragon n'a pas réussi à dévorer la femme, l'Église, et il ne réussira pas. Il n'a pas réussi à la dévorer, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la guerre au reste de sa descendance, nous est-il dit, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus par leurs paroles et par leur vie personnelle. Ça plaît pas au diable quand vous voulez avoir une vie qui plaise à Dieu, quand vous voulez témoigner de Jésus. Mais ce texte est là pour nous encourager, pour nous fortifier. Oui, le diable n'a pas réussi, le dragon n'a pas réussi à dévorer Jésus, non plus l'Église. Et là, eh bien, le diable ne peut plus accuser les élus, ne peut plus accuser l'Église à cause de Jésus. Eh bien, ne pouvant plus accuser, n'arrivant pas à dévorer son Église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à sa première méthode. Sa première méthode avec Ève, qu'a-t-il fait? Il a séduit Ève. Et là, eh bien, le diable va revenir, ne pouvant plus accuser l'Église à cause de Jésus, il va revenir à sa plus vieille méthode, la séduction, pour séduire toute la terre. Et gloire à Dieu, Dieu veut nous avertir par sa parole. Voyons mon troisième point. L'Église peut garder les commandements de Dieu parce que Dieu nous a donné les moyens de reconnaître les ruses de son ennemi, le diable. Lisons donc la suite du texte au chapitre 13. Chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors le diable, il n'a pas baissé les armes. Et pour en arriver à ses fins, eh bien, cette fois, il va agir non pas directement, mais il va utiliser 2 serviteurs, 2 bêtes. La première, elle vient de la mer. La mer, ça fait penser au chaos. Verset 1. Et la seconde, de la terre. La terre, c'est quelque chose de plus stable. Verset 11. Le dragon a donné son pouvoir, son grand pouvoir à la première bête. Et vous avez remarqué, la bête a aussi 7 têtes et 10 cornes. Comme le diable, comme le dragon. Le verset 1 du chapitre 13 est à comparer au chapitre 12, verset 3. La bête, comme le dragon, a aussi 7 têtes et 10 cornes. Et cette première bête, donc, décrite au verset 2, eh bien, on peut rapprocher, sans s'attarder dessus, mais je vous donne la référence, on peut la rapprocher de quatre bêtes que Daniel, le prophète Daniel, a données dans l'Ancien Testament. Sauf qu'ici, on a affaire à une bête qui est monstrueuse et qui va réunir les caractéristiques de quatre autres bêtes féroces qui ont été nommées dans Daniel au chapitre 7, versets 3 à 7. Daniel 7, 3 à 7. Ces bêtes qui sont citées ici, eh bien, et qui sont rassemblées en une seule bête, il était question de quatre bêtes dans le livre de Daniel qui sont l'ours, le lion et le léopard, et une quatrième bête féroce aussi, puissante. Alors, ici, cette bête qui rassemble les caractéristiques des bêtes précédentes, pour bien montrer que c'est une bête qui rassemble la monstruosité des monstruosités, eh bien, on peut y voir, dans l'histoire en tout cas du monde, on peut y voir l'Empire romain reconstitué, qui réunit les caractéristiques des empires précédents dans l'Antiquité, à savoir les empires babyloniens, l'Empire médo-perse, l'Empire grec et l'Empire romain. Il y a eu un empire romain qui a réuni les caractéristiques de ces quatre empires précédents dans l'Antiquité. Mais pas seulement. Donc des empires qui s'allient. Ça nous fait penser aussi à des alliances qui sont plus récentes dans notre histoire. Pendant les premières et secondes guerres mondiales, il y a eu aussi des alliances. Et le verset 7 annonce un empire mondial à venir, le dernier empire mondial à venir, qui est dirigé, celui-là, par l'Antéchrist, avant l'avènement du règne de Christ. On est toujours à la première bête. Une des sept têtes de la première bête a été frappée à mort, puis guérie. Et ce qui a suscité non seulement l'admiration de la terre, mais l'adoration de la terre entière. Verset 4, une proclamation qui s'adresse à la bête. Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Une expression d'adoration qui ressemble fortement à une autre expression d'adoration qui, elle, s'adresse à Dieu. Exode 15, verset 11, par exemple. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Alors, oui, une première remarque, là, pour identifier les ruses du diable, c'est que les paroles de louange adressées à la bête sont les mêmes que celles adressées à Dieu. Et là, on commence à voir la stratégie du diable. Et de la bête. Sa stratégie, quand il n'use pas de la violence, eh bien, sa stratégie, c'est d'imiter Dieu et imiter sa parole. Le diable veut faire une contrefaçon de Dieu. Et un autre élément de sa contrefaçon, la bête a été guérie de sa blessure mortelle. Ce n'est pas sans rappeler la mort de Christ qui a reçu tout pouvoir de par sa résurrection. Autre élément de contrefaçon. La gueule de la bête, sous l'autorité du diable, blasphème Dieu et son tabernacle au ciel pendant le règne de l'Antéchrist qui dure 42 mois. Alors, oui, le diable va régner ici, mais sous l'autorité de Dieu. Il lui a été donné. Ça veut dire que Dieu continue de régner. Et cette période bien déterminée de 42 mois montre bien que oui, Dieu va laisser le diable, l'Antéchrist, les deux bêtes, régner pendant un temps bien déterminé. Parce que Dieu reste et restera souverain. Il va laisser le diable régner pendant 42 mois. C'est pas nouveau. Les empereurs romains blasphémaient eux-mêmes. Ils voulaient se faire adorer en prétendant être Dieu et non un homme, en portant des noms qui n'appartiennent qu'à Dieu et à Christ. Déjà, c'était le cas dans les empires romains successifs. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Hier, l'Allemagne devait prêter allégeance, jurer fidélité au Führer, à Hitler. Aujourd'hui, en Corée du Nord, les Nord-Coréens doivent se prosterner devant les statues géantes de leurs dirigeants. Et beaucoup de dirigeants de notre époque n'ont pas caché leur désir d'un gouvernement mondial dirigé par un seul homme qui réglerait tout, tous les problèmes. Il y a cette attente chez certains dirigeants, depuis les années 50 hein, et depuis même avant. Certains aspirent à un gouvernement mondial qui réglerait tout. Alors, eh bien, sous le règne de l'Antéchrist, ça va mal. Et le verset 7 semble, je dis bien semble, être une défaite pour le peuple de Dieu, puisqu'il est dit « Et il lui fut donné, donc à la bête, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Oui, la bête fera la guerre à l'Église, aux saints, et les vaincra, c'est écrit. Certains chrétiens qui seront présents pendant cette période seront mis à mort pour ne pas s'être prosternés devant la bête. Là encore, c'est pas nouveau. Déjà, sous Néron, les chrétiens étaient mis en torche vivante pour ne pas avoir adoré l'empereur ou jeté au lion. Et là, eh bien, le verset 8 nous dit qu'il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Ceux qui n'adorent pas Dieu, ils adoreront le dragon. Il n'y aura pas de neutralité. Et il n'y aura pas non plus de cohabitation possible. Quelqu'un qui refuse de croire en Jésus, il refuse de croire à la vérité. Jésus est la vérité incarnée. Et forcément, quelqu'un qui s'obstine à ne pas croire en Jésus, il croira au mensonge. Et le mensonge, c'est le diable qui est le père du mensonge. Ceux qui ont refusé de croire à la vérité adoreront le mensonge et le père du mensonge, Satan. Il n'y a pas de neutralité. Alors, cette défaite apparente des chrétiens, c'est en fait une victoire. Pourquoi ? Parce que d'avoir été jusqu'à verser leur propre sang pour rester fidèle à l'agneau témoigne d'autant plus de l'efficacité de son propre sang versé pour nous à la croix. Ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. C'est la preuve que l'efficacité de Jésus, de son sacrifice, est là. La victoire, elle est quand même acquise, même dans la mort et la souffrance. La victoire est acquise même quand tout semble perdu. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, tout semble perdu. Non, le diable, le dragon ne réussira pas à dévorer son Église. Et le verset 10 est là pour nous encourager, pour encourager l'Église à garder la foi et à persévérer dans l'épreuve, à espérer même quand tout semble perdu. Le verset 10 est là pour nous encourager à garder les commandements de Dieu, même quand tout semble perdu. Parce que justice sera faite sur ceux qui tuent et qui emprisonnent le peuple de Dieu, ça ne durera pas toujours. L'histoire est là aussi pour en témoigner. Les dictatures, de même que toutes les puissances qui s'opposent à Dieu, qu'elles soient passées, présentes ou à venir, elles ne sont pas éternelles, les dictatures. La chute de l'Empire romain en est un exemple, la chute du nazisme en est un autre exemple. Et puis là, eh bien, entre en scène une deuxième bête, verset 11. Et là, eh bien, la stratégie du diable va devenir encore plus évidente à nos yeux. Ce qui va nous aider à la combattre. Comment elle est, cette seconde bête? Eh bien, elle est une contrefaçon de l'agneau de Dieu. Elle a deux cornes comme celles d'un agneau, nous est-il dit. Elle a deux cornes. Sauf que Jésus, lui, l'agneau de Dieu, il en a sept. Voir Apocalypse 5, verset 6. Cette deuxième bête, elle a donc l'apparence d'un agneau. Il est doux, il est gentil, comme un agneau. Cette deuxième bête, elle se fait passer pour l'agneau de Dieu. Mais attention, gentillesse n'est pas bonté, c'est pas pareil. Gentillesse n'égale pas bonté. Dieu est bon. Cette bête-là, elle est gentille. Mais son langage la trahit. Elle parle comme un dragon, nous est-il dit. Elle parle comme un dragon. On peut dire que cette deuxième bête, elle est le prophète de la première bête, son porte-parole. Et ici, eh bien, nous sommes là devant une contrefaçon, non seulement de l'agneau de Dieu, mais de la Trinité divine, Père, Fils, Saint-Esprit, avec le trio, dragon, bête et faux prophète. Contrefaçon de la Trinité divine. Voilà la ruse du diable, qui est un imitateur. Et Jésus nous avertit. En Marc, l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 21-22, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Et en 2 Corinthiens 11, 14, il nous est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Attention, séduction! Le diable, il attaque tantôt de façon directe et agressive, facilement reconnaissable, tantôt par séduction, déguisée, sournois, plus difficile à démasquer. Alors la seconde bête, elle commence d'abord par séduire tous les habitants de la terre. Elle organise une campagne internationale avec des grands signes pour pousser tous les hommes à adorer la première bête qui a été blessée et guérie. La deuxième bête, elle pousse à l'idolâtrie. Première étape, la séduction. Deuxième étape, la force après la séduction. Elle anime l'image de la bête pour la faire parler et pour tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. Aujourd'hui, ça semble pas si extraordinaire que cela. Je ne sais pas si vous avez regardé les actualités. Parfois, il y a des reportages sur l'intelligence artificielle, ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est devenu possible de faire parler l'image d'un mort sur n'importe quel texte, même un texte qu'il n'a pas dit, avec sa propre voix, et c'est bluffant. Par l'intelligence artificielle. Et non seulement ça, il est même donné, il est possible d'animer son image, son visage, en même temps qu'elle parle. Et vraiment, c'est bluffant. Et ça porte un nom, ça s'appelle le deep fake, en anglais. Deep fake, ça veut dire, en anglais, gros mensonge, quoi. C'est gros, voilà. Voilà. Alors là, eh bien, on arrive effectivement à ce fameux chiffre qui a fait tellement couler beaucoup d'encre. La première bête, elle a une marque. Elle a une marque, un nom, et le chiffre de son nom, 666, dont elle se sert pour exercer une pression économique sur le monde entier. Si quelqu'un refuse un de ces trois sur la main, un de ces trois sur la main ou sur son front, eh bien, il ne pourra ni acheter ni vendre, nous est-il dit. Et aujourd'hui, eh bien, quand on analyse ce qui se passe, nous sommes dans une mondialisation qui est croissante. Du commerce, avec ses lois du marché, le marché qui dicte sa propre loi et qui parfois dépasse la souveraineté des États. Alors, comment interpréter le nombre 666? Alors, on dit qu'il y a presque autant d'interprétations que de ce nom, que 666. Il y en a eu tellement. En tout cas, le texte nous dit que c'est un chiffre d'homme à calculer, d'après le verset 18. 666, c'est juste en dessous de 777, le chiffre parfait. Et ça peut évoquer, eh bien, ça peut évoquer le trio satanique par opposition à la Trinité divine. Le diable, à la fin des temps, donc, il utilise le triple pouvoir politique, qui est le triple pouvoir politique, économique et religieux, mis ensemble pour arriver à ses fins. À ce moment-là, pouvoir politique, économique et religieux seront ensemble pour, au moment du règne, où arrivera l'Antéchrist. Et d'ailleurs, ce chiffre, on a souvent cherché un homme, essayer de transformer les chiffres en lettres. Mais, alors oui, on peut voir le nom d'un individu, mais pas seulement. On peut aussi, derrière ce chiffre, voir un empire ou une idéologie. On peut y voir le principe du mal derrière ce chiffre. On peut y voir l'esprit de l'Antéchrist. Et l'esprit de l'Antéchrist, il est déjà à l'œuvre chez les incroyants. 1 Jean 4, verset 3, c'était déjà le cas il y a bien longtemps. Alors, pour terminer, quelques applications pour nous, aujourd'hui. Le faux prophète. Aujourd'hui, eh bien, le faux prophète au service de la bête, il est bien à l'œuvre. Il est bien à l'œuvre avec, par exemple, je citerai quelques exemples, l'enseignement de l'évolution à l'école, pour nier la création. Il est à l'œuvre avec l'idolâtrie porté aux médias. On attend tout des médias. Parfois, étant prêt à croire tout et sans se donner le temps d'analyser. Le faux prophète, la deuxième bête, elle est à l'œuvre dans une société qui pousse toujours plus à consommer. Elle est à l'œuvre aussi lorsque certaines municipalités laïques empêchent la construction d'églises. Alors que nous voyons, et j'en ai vu encore récemment, j'en ai vu en région parisienne à Gonesse et j'en ai vu à Toulouse, la construction de mosquées. Et quel bâtiment! C'est impressionnant! Ça, les autorités ne les, en, en tout cas, n'arrivent pas à les empêcher, ils ne sont pas arrivés. Oui, et parfois même dans certaines églises, il peut y avoir de faux enseignements. D'où l'importance, pour chacun d'entre nous, de lire sa Bible quotidiennement. Tout est là. Alors oui, si les autorités voulues par Dieu, hein, les autorités sont voulues par Dieu, si les autorités voulues par Dieu dépassent les bornes fixées par Dieu pour nous éloigner de lui, nous ne sommes pas obligés de nous y soumettre. C'est la frontière. Et là, eh bien, il est question, vous avez remarqué, de pouvoir pour la bête. Et il n'est pas dit qu'il est question d'autorité. Le seul qui a reçu tout pouvoir, Matthieu 28, 18, et toute autorité, 1 Pierre 2, 13, c'est Jésus. Ici, la bête a reçu un pouvoir puissant. Mais pouvoir et autorité sont différents. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand ils nous disent des choses contraires à ce que Dieu veut. Et ce texte, eh bien, il est là pour nous dire qu'il est possible et qu'il sera possible de garder les commandements de Dieu ainsi que le témoignage de Jésus. C'est donc un encouragement à lire la parole de Dieu quotidiennement. Non seulement à la lire, vous savez, on peut très bien la connaître, hein, mais c'est de l'appliquer dans nos vies qui fera la différence. Et aussi à témoigner de Jésus dans un monde qui est un monde d'obscurité, de ténèbres. Et c'est cette même parole qui nous aidera à démasquer les ruses du diable. Et puis, eh bien, en application, il n'y a pas de neutralité. Parce que nous serons tous marqués d'une marque qui identifie à qui nous appartenons. Tous marqués. Pas tous de la marque et de la marque de la bête, mais tous seront marqués. Et les chrétiens, nous sommes déjà marqués. Nous sommes déjà marqués de la marque du Saint-Esprit que nous avons reçue lorsque nous avons cru en Jésus pour notre salut, que nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons cru que Jésus a pris sur lui notre condamnation. Et nous adorons Dieu par amour. Lui qui met son peuple à l'abri. Mais les autres qui n'auront pas cru seront marqués de la marque de la bête qu'ils seront contraints d'adorer par peur de manquer. Il n'y a pas d'autre marque intermédiaire. Alors la question du choix se pose pour tout à chacun, sur terre, ici-bas. Quel est votre maître ? Pour terminer une citation, un homme ne peut que se transformer à l'image de son maître. Un homme ne peut que se transformer à l'image de son maître. Si Jésus est votre maître, eh bien, il a commencé une belle œuvre. Il terminera ce qu'il a commencé de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Je vais prier. Merci Seigneur encore de nous avoir laissé ta parole, Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, nous voulons la recevoir, même si on ne comprend pas forcément tout. Mais tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde déchu, dans lequel tu nous demandes de briller de ta personne, de ta lumière, Jésus. Et nous te demandons cette grâce, c'est vrai, de traverser les épreuves, même si des fois nous ne comprenons pas tout, Seigneur. Fais-nous cette grâce de te rester fidèle, Seigneur, de porter du fruit pour toi, pour que les autres te voient dans nos vies et que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci de nous avoir laissé le portrait du diable avec ses ruses pour pouvoir mieux le reconnaître et le combattre. Par la prière, Seigneur, sachant que toi, tu l'as déjà vaincu. Merci, Seigneur, de donner clairvoyance à ton peuple, de nous donner discernement pour mieux comprendre ce que nous vivons, pour mieux vivre nos traversées du désert aussi, pour, Seigneur, les vivre avec toi. Parce que toi, tu es là, Seigneur, tu as enlevé la séparation causée par notre péché. Merci de tes promesses que tu garderas ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.